Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 18e de la 5e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Alain Perea.
Bonjour.
Député de la 2e circonscription de l'Aude, député donc En Marche. Et on va justement parler de pas mal de choses, de l'actualité à la fois tout à fait brûlante et puis un tout petit peu plus ou un petit peu moins récente. Mais auparavant, comme c'est la tradition ici à Radio Barque, Michel a un sommaire qui va commencer par la légende des périphéries urbaines abandonnées par l'État. C'est le premier contre-regard. Après quoi, on parlera de l'invraisemblable et ruineuse guerre de l'Arena de Montpellier entre Madame Delga et Monsieur Sorel. Dans une deuxième partie, Madame Pinel et Monsieur Codorniou, alors là, je reprends également l'expression parce qu'elle est rugbystique, Monsieur et Madame Pinel, donc, feinte la passe aux Valoisiens et retourne au PRG.
Monsieur Madame Pinel...
Pardon. Madame Pinel et Monsieur Codorniou, voilà, c'est le rugby qui faisait que j'avais dérapé ou on m'avait mal plaqué, là. Et nous terminerons par, évidemment, alors là c'est un passage obligé, municipal 2020 à Narbonne, c'est parti pour Alain Perea et l'AREM, en tout cas Monsieur Perea nous dira ce qu'il en pense, lui. Pour commencer, donc, la légende.
Oui, Jean-Claude, une légende qui est devenue maintenant un cliché, quoi. C'est tout le monde, tous les commentateurs politiques, éditorialistes, enfin bref, intellectuels qui s'intéressent à l'aménagement du territoire et qui essaient, en fait, d'expliquer le mouvement des Gilets jaunes, n'arrêtent pas de nous dire, en fait, de nous dire que ce mouvement reflète l'expression même de la dualité, de l'affrontement, on pourrait même dire, entre les centres urbains et leurs périphérie. Alors c'est une thèse qui est défendue par un géographe qui a connu son heure de gloire, qui la connaît encore, d'abord qui s'appelle Christophe Guelli, et que j'avais déjà contesté, mais sur des bases très empiriques d'ailleurs, dans un billet sur le sujet, et qui depuis combien une semaine à peu près se trouve conforté par l'analyse d'un géographe qui s'appelle Jacques Lévy et qui, j'ouvre une parenthèse, hein, a reçu récemment l'équivalent du prix Nobel dans ce domaine fait scientifique là qui est la géographie. Donc que dit Jacques Lévy? Ben que contrairement à ce que c'est par Christophe Gilly, c'est pas du tout fait exact, et que contrairement à cette ancienne, à cette légende-là, les périphéries ne sont pas abandonnées par l'État, comme d'ailleurs le périurbain. Mmh. Et il donne quelques éléments d'explication, mais fondamentaux, quoi, hein, pour illustrer cette prise de position que je partage. Il dit par exemple que les 25% de Français qui habitent la couronne des aires urbaines, hein, c'est-à-dire la partie de ces aires les plus éloignées du centre, ont des revenus qui se situent au-dessus de la moyenne nationale. Premier élément de réflexion. Hein. Ce sont des gens qui en plus ont fait le choix, mais délibéré pour la plupart, de devenir propriétaire d'une maison individuelle avec un jardin privatif et une ou deux voitures.
Oui, c'est l'ambition d'ailleurs des classes moyennes et hautes classes moyennes ici et ailleurs,
oui,
dans la plupart des pays.
Oui, pas forcément les hautes ni les moyennes,
les classes
moyennes de manière générale, avec chacune pour chacune d'entre elles selon leur revenu, effectivement, une maison plus ou moins grande, un jardin plus ou moins petit. Que sais-je encore, une ou à la place de deux voitures, mais peu importe.
Hein. Ça, c'est universel, mais c'est pas seulement
c'est universel,
français.
Bon, c'est un constat que tout le monde fait. Deuxième remarque, critique faite par Jacques Lévy, l'État n'a jamais abandonné ses périphéries, loin de là. Hein. C'est là aussi une légende qui est comportée, et c'est pas un hasard, hein, par les sénateurs et les élus des zones à faible densité qui bénéficient pourtant plutôt du système, comme jamais d'ailleurs il n'en a bénéficié depuis le début de la 5e République. Contrairement à ce que dit par exemple Christophe Gilly, en fait, le géographe auquel s'oppose Jacques Lévy, ce sont les contribuables des grandes villes, hein, qui paient pour les autres.
Alors par quel système?
Le revenu disponible, enfin voilà une indication statistique, le revenu disponible effectif médian, c'est-à-dire le plus faible, hein, se trouve à Île-de-France, pas à Narbonne.
Médian. parce que c'est là aussi où sont les plus hauts. Il faut
non, mais c'est le revenu, voilà, c'est entre, voilà. Entre les catégories. Enfin, on fait la moyenne entre les revenus les plus hauts.
Bien sûr,
les plus,
moyenne.
Hein, c'est par rapport à cette moyenne-là qu'on détermine c'est effectivement les plus riches et les moins riches.
Oui, mais d'accord. Hein.
Mais donc, voilà.
Il faut bien préciser que c'est une moyenne, parce que l'Île-de-France, quand même, on sait ce que c'est.
Je raisonne en moyenne, mais ça, on peut avoir le même raisonnement pour les grandes aires urbaines comme Marseille, comme Lyon, comme Bordeaux, comme Montpellier, comme Toulouse, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés de l'aire urbaine de Paris, par exemple, produisent beaucoup, mais que tout est redistribué par notre grande machine étatique à redistribution, par la fiscalité, les retraites et la sécu, et redistribué dans les autres aires périurbaines et rurales. C'est ça que cela veut dire, en fait. Et ce malgré le coût d'une mobilité en région parisienne, qui est beaucoup plus élevé, par exemple, qu'en Narbonne, qu'en Montpellier ou qu'en Carcassonne. Donc voilà.
Avec des transports un peu plus appropriés aussi, je dis bien un peu plus.
Un peu plus. Mais troisième remarque que fait observer Jacques Lévy, ce n'est plus maintenant par rapport à la distance des services publics, par exemple, qu'on doit déterminer ou qualifier un territoire comme abandonné ou par l'État ou
Amélioration. Oui, tout dépend de l'état des routes, on va dire.
Mais surtout, les principaux services maintenant sont numérisés. Je veux dire, je donne des exemples tout bêtes. Revendiquer l'installation d'une trésorerie dans le chef-lieu de canton de Moutoumé, c'est absurde.
Ça
coûte un argent fou de contribuables pour un service qui aujourd'hui est rendu très facilement par la voie numérique.
Ça peut sembler désuet.
Mais pareil pour la poste, pareil aussi pour les petites maternités qui, on sait très bien aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, ne sont plus sûres, et que le patient a le choix entre aller dans une maternité qui n'est pas sûre avec des risques sanitaires importants ou faire quelques kilomètres de sur des routes à peu près comme convenable, tu fais bien de le remarquer, pour aller assez vite.
À condition qu'elle le fût, convenable.
Oui, mais quand même, on ne peut pas dire que les patients sauvement dans l'infra-rural, dans des endroits très très isolés, soit à des heures d'une maternité en France, cela n'est pratiquement pas observable sur le territoire français. Voilà quelques indications seulement que je voulais très rapidement.
Donc une mise au point, quoi.
Une mise au point pour que nos auditeurs, en tout cas, ne se laissent pas emporter par ces clichés qui sont aujourd'hui légion et qui expliquent que le périurbain et l'infra-urbain. Abandonné par l'État. C'est faux.
Alors, un sujet qu'on adore dans les contre-regards de Radio Marque, c'est, je cite, la guerre invraisemblable et ruineuse entre Mme Delga et M. Sorel à Montpellier à propos de l'Arena.
Oui, alors l'Arena,
pas
ça
l'Arena
sonne,
de Narbonne qui est juste en chantier. Celle de Montpellier existe.
Oui, mais justement, j'utilise ce cas-là comme une métaphore, en tout cas comme une illustration de ce qui pourrait se passer un jour ici. Ce qui est improbable, mais quand même, que les auditeurs m'écoutent attentivement. Voilà quand même. D'abord, avant de commencer, un petit constat. Je ne sais pas si tu as remarqué, Jean-Claude, dans la presse locale, il y a rarement des papiers sur ce qui se passe dans nos capitales régionales, que ce soit Toulouse et Montpellier.
Oui, on fait dans le trait local. Oui.
Tout se passe comme si, dans cette région Occitanie à laquelle nous appartenons, ce qui se passe à Toulouse et à Montpellier n'intéressait pas du tout les Narbonnais.
C'est peut-être le cas.
Sauf que les Narbonnais sont aussi des contribuables et des électeurs, et que donc ils paient des impôts à la région et qu'ils élisent bien des conseillers régionaux. Et personne n'en parle.
Oui, ça c'est incontournable.
Bon, alors je reviens à Montpellier après cette petite digression. Voilà un cas quand même d'école assez intéressant. On a à Montpellier, une société d'économie mixte qui s'appelle Montpellier Events. Alors, Events, en anglais, s'il te plaît.
C'est événement.
Ça veut dire événement.
Oui, c'est un événement.
Comme on est en France, effectivement, on dit Events au lieu d'événement.
Ah, bah oui, mais ça fait plus chic.
C'est le langage de la communication, c'est l'anglais,
voilà.
Voilà une société d'économie mixte qui est détenue, paritairement, en gros, par la région, par la métropole de Montpellier, Philippe Sorel, et par la région Occitanie, Madame Delga. Elle est en faillite, cette société d'économie mixte. Alors, elle est en faillite. Pourquoi et comment? Elle est en faillite parce qu'elle gère quatre gros équipements. L'Arena de Montpellier, le Parc des Expos de Montpellier, qui appartiennent à la région.
Oui, c'est affreusement compliqué.
Oui, et le Corum, et le Zénith, qui appartiennent à la métropole de Montpellier, à Sorel. Les deux derniers sont bénéficiaires. Et les deux premiers sont lourdement déficitaires de la région.
Alors, et Madame Delga là-dedans.
Et Sorel dit, j'en ai ras-le-bol, en fait, bon, il faut qu'on sorte de ce pataquès parce que j'en ai marre de financer avec mes équipements les déficits des équipements de la région. On voit déjà le problème entre les deux personnes. Sauf que Madame Delga, elle, s'est retrouvée dans cette situation. Pourquoi ? Elle n'avait pas forcément envie d'avoir un parc des expos, en fait, une arena dans son portefeuille d'actifs. Hein. Elle a récupéré, si je puis dire...
C'est un héritage de Frèche.
Héritage de Frèche, qui, en grand stratège, parce qu'il est présenté comme ça quand même, Georges Frèche, comme un grand stratège, qui a fait des opérations extraordinairement stratégiques pour la région. Quand il a été élu président de la région, je l'ai vécu de près, cet événement-là, qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il était aussi président de l'agglo de Montpellier.
Oui, voilà.
Il avait des équipements qui lui coûtaient la peau des fesses. Il avait un endettement qui ne pouvait pas s'en sortir. Donc, et il s'est dit, je transfère le tout fait à la région.
Il a refilé le bébé
à la région.
Là où il y avait de l'argent.
Et donc,
la
pauvre, si je puis dire, Carole Delga se retrouve avec ça. Oui, bon, voilà. Et à faire. Conclusion. Elle se retrouve avec deux équipements qui sont largement déficitaires. Oui. Alors, ils ont trouvé quand même un accord tous les deux pour s'en sortir. L'accord que nos auditeurs écoutent bien. Moi, Delga, je vais résilier la délégation de services publics avec Montpellier-les-Vents. Au passage, je mets 42 millions d'indemnisation parce qu'il y a des partenaires privés.
Ah, oui.
42 millions. Et pour ne pas trop peser quand même sur les structures, sur la structure en question qui vont gérer ensuite les deux équipements, puisqu'elle va créer une SPL et Fosorel pareil, eh ben, je vais récupérer, en fait, l'amortissement de l'emprunt et les intérêts des emprunts des deux structures qui étaient auparavant étaient financées par la société Montpellier Events. Conclusion, en fait. Bon. Si tu rajoutes à ça, Jean-Claude.
Ça en fait des sous, là.
Oui, bien sûr. Pour financer le parc des expositions, la région ne trouve pas le, plus simple que de réunir son conseil régional au parc des expos et donc de payer un loyer à sa propre structure. Je sais pas si tu vois un peu. Mais
c'est pas fini.
Hein. Pour financer l'aréna, qu'est-ce qu'on fait? Comme il n'y a pas de partenaire, on dit à Sud de France, une autre filiale de la région Occitanie, et de faire un naming, c'est-à-dire de mettre son nom sur aréna et de filer 300 000 euros par an, effectivement, à l'aréna. C'est-à-dire que c'est la région qui est en déficit, qui paye effectivement à la structure dont il est en déficit.
Oui.
Une histoire de fou.
Voilà.
En fait, hein.
Donc là, on est obligé rapidement de marquer une pause pour permettre à l'auditeur de réfléchir à tout ça et d'y comprendre quelque chose.
Voilà. Un gros pataquès, mais qui coûte la peau des fesses, effectivement, au contribuable régional.